Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonsoir. Je suis très heureux de savoir que vous êtes nombreux ces soirs en train de nous suivre sur UFM 94.7. Et pour ces nouveaux numéros de YouJob, j'ai un réel plaisir non seulement d'avoir fait un grand déplacement pour rencontrer des entrepreneurs, mais également de professionnels de la province du Kasaï central, ici à Kananga. Ce soir, je reçois un jeune entrepreneur. Il est parti pour devenir médecin, mais là, il va au-delà parce qu'il évolue bien dans l'entrepreneuriat, non seulement dans l'agroalimentaire, mais bientôt, il va se lancer dans la restauration. Je suis très heureux de t'avoir dans notre micro. Giscard, bonsoir.
Bonsoir, Claustici.
Alors, Giscard Katala, c'est qui nos auditeurs depuis Kinshasa? Serait très curieux de savoir ces jeunes qui étaient destinés à devenir médecins, qui aujourd'hui, de plus en plus, se retrouvent en entrepreneur.
Alors, Giscard Katala, ce qu'il faut savoir de lui, c'est un guy from nowhere going somewhere. Ce qui veut justement dire un garçon de nulle part allant quelque part. Je suis entrepreneur dans les systèmes alimentaires, mais en parallèle, je suis étudiant ou médecin stagiaire, voilà. Je suis étudiant il y a quelques mois et là je suis médecin stagiaire dans la province du Kasaï central.
Médecin en ce moment, en même temps entrepreneur mais également étudiant. Alors tu te retrouves médecin stagiaire seulement parce que tu es encore à l'université ou parce que quelque part dans un coin de ta tête tu t'es dit non moi je dois finir médecin?
Alors les deux possibilités sont envisageables, mais ce qu'il faut savoir c'est que je concilie médecine à l'agroalimentaire parce que après la médecine, je vais faire une spécialisation en santé publique et beaucoup plus dans tout ce qui concerne l'alimentation. Et surtout, j'ai oublié de le mentionner, je suis le PDG de la firme KTL, qui est une entreprise agroalimentaire basée au Kasaï central à Kananga qui fabrique de la mayonnaise.
Alors, de la mayonnaise fabriquée à base de quoi? Parce que on a de plus en plus aujourd'hui de marques, on va dire congolaises, des marques locales qui produisent de la mayonnaise. C'est quoi la particularité avec ta marque? Est-ce qu'elle est déjà consommée ici sur le plan local?
Alors, ma marque, c'est Mayo Bio. Notre particularité, elle est évidemment faite à base de œufs comme toutes les autres mayonnaises. Mais nous, ce sont les œufs de nos poules que nous élevons et nous avons une mainmise sur toute la chaîne d'approvisionnement, partant de l'élevage des poules, parce que on a des entreprises partenaires qui nous livrent les œufs et on se rassure de contrôler toute l'alimentation de ces poules pour pérenniser ou pour garantir l'aspect bio des mayonnaises. Et en plus de cela, ici à Kananga, la mayonnaise elle est déjà sur le marché et bien évidemment consommée. Mais nous avons eu un coup de pouce avec le projet Transform qui a été un concours de plan d'affaires au niveau national. Et avec le financement, nous espérons nous étendre dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi pas aussi l'Afrique centrale tout entière. Et je tiens à signaler que depuis le lancement ou la sortie de notre mayonnaise, nous avons été lauréats de plusieurs concours tant au niveau national, international et mondial aussi.
Alors, il y a déjà énormément de choses que nous allons évoquer avec toi. Étudiant, entrepreneur, gagnant de prix, mais également producteur de la mayonnaise, bio, à base d'œufs, de poules. Alors, ces poules, vous les élevez. Donc, vous avez une ferme.
Dans un premier temps, on n'a pas de ferme. Comme je l'ai mentionné, nous avons des entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons qui ne sont spécialisées que dans l'élevage des poules. Alors, nous nous approvisionnons dès la source et on se rassure que l'alimentation soit une alimentation de bonne qualité pour garantir l'aspect bio.
Alors, on pense à Kinshasa, la plupart des gens pensent qu'il est impossible d'entreprendre en province. Quand on veut lancer un business, vu la taille du marché de la capitale, on est environ 20 millions d'habitants, on a tous l'intention d'aller s'installer à Kinshasa. Et toi, tu évolues ici, tu parles même d'une marque qui est basée ici et qui vend ici. Est-ce que tu penses qu'il est possible d'entreprendre en province sans jeter un œil sur le marché quinois?
Évidemment, il est possible d'entreprendre en province et de prospérer en province. Je m'explique. Tout au début, je vous ai dit, je suis un garçon de nulle part allant quelque part. A guy from nowhere going somewhere. Au début de ma carrière entrepreneuriale, j'étais confronté à plusieurs difficultés et les difficultés existent toujours. Mais ce qui m'a le plus attiré, c'est lorsque nous avons participé à des concours au niveau national avec les entrepreneurs de Kinshasa. Mais fort, ou ce qui m'a beaucoup plus encouragé, c'était de voir que les entrepreneurs locaux avaient aussi de la place. Il y a des entrepreneurs de Kinshasa.
C'est-à-dire des entrepreneurs qui viennent de province.
Évidemment, des entrepreneurs qui viennent des provinces. Nous avons été en concours et j'étais dans les top 3 des lauréats au niveau national avec l'UNICEF. Et à part cela, je suis dans les top 40 des plus jeunes entrepreneurs africains avec African Leadership Academy via Anzisha Prize. Et l'année passée, j'ai représenté la RDC au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, au African Food Systems à Dakar. Et cette année, ça sera dans un autre pays d'ici le mois prochain. Et je me dis qu'en province, il y a plus d'opportunités que dans la capitale. Aux entrepreneurs, aux amis qui veulent aller à Kinshasa, je leur dis, ne surpeuplons pas Kinshasa. Kinshasa est un marché bien évidemment saturé, mais nos provinces ont des marchés encore non exploités. Nous pouvons les exploiter et voir des débouchés déboucher nos produits dans d'autres provinces.
Alors, donc, tu penses qu'il est possible d'entreprendre en province et même de prospérer. On parle du marché du Kasaï d'abord, qui constitue ta niche. Aujourd'hui, la population kasaïenne est d'environ combien de personnes?
La population du Kasaï central est d'environ 5 millions d'habitants et la ville de Kananga, environ 2 millions d'habitants.
2 millions, ce qui est énorme. Alors, on va vraiment parler de tous ces points. Je pense qu'on va vraiment faire une interview complète pour aider aussi à nos auditeurs qui nous suivent à Kinshasa, mais aussi à travers le monde, hein, parce que nous sommes à l'international. Et il y a également ceux qui sont en province, dans d'autres provinces, que ce soit dans le Haut-Katanga, dans la province de Lomami ou même dans le nord Ubangi, partout en République démocratique du Congo. Question d'avoir aussi une vision claire sur personnellement ces stratégies. Alors, on va aller de la base à aujourd'hui, voire même à ce que tu ambitionnes de faire. Comment tu t'es retrouvé dans l'entrepreneuriat? Où est-ce que tu as trouvé ton premier financement?
Alors, tout est parti d'une observation, en fait d'une participation à une conférence qui était organisée par une des structures locales. Lorsqu'on nous a annoncé l'avènement du projet Copa Transform, qui est un projet financé par la Banque mondiale. Bien avant, j'évoluais dans l'entrepreneuriat, mais je n'étais que dans l'élevage des poules. Mais après, par manque...
On parle de quelle année comme ça?
C'était en 2022. Pour la transformation de mayonnaise, j'ai débuté ça en 2022, après avoir participé à une conférence organisée par le projet Copa Transform. Mais bien évidemment, en entrepreneuriat, j'ai eu le nom de mon entreprise vers 2017, lorsque j'étais en quatrième des humanités. Et après, je suis passé... c'était une expérience parce que déjà, je suis passionné par tout ce qu'il y a trait aux systèmes alimentaires. Je savais faire de la mayonnaise, je sais faire du ketchup, je sais faire des tomates, des purées de tomates et je sais transformer plusieurs aliments. Mais les constats ou l'étude du marché que j'ai eu à faire, c'est qu'en République démocratique du Congo, on ne fabrique pas ou on ne produit pas de la mayonnaise. Alors, Mayobio, la vision à long terme est de s'imposer comme cette marque incontournable du marché congolais dans l'alimentation ou dans les sauces congolaises.
Waouh, ça c'est énorme. Donc depuis 2022, tu t'es lancé dans la fabrication de la mayonnaise. Mais il fallait avoir des ressources, que ce soit matérielles, financières, voire même humaines. Comment tu as pu constituer ton entreprise dès le départ et comment tu as fait l'étude du marché?
Bien évidemment, comme on l'a dit, tout part d'une idée. Tout est parti d'une idée, de la petite production de 2 bouteilles, 5 bouteilles, 10 bouteilles et actuellement environ 1000 bouteilles le mois. Le début, c'était très difficile parce que, vous savez, un jeune de nulle part, surtout de Kananga, qui vient à peine de faire ses débuts en médecine, la fameuse question revenait toujours. Qu'est-ce qui prouve que ta mayonnaise, tu n'as pas pris la mayonnaise des Occidentaux et tu as mis dans des emballages justement pour nous vendre? Et je disais toujours, passez voir le processus de production. Au fur et à mesure, j'ai commencé à gagner la confiance de la population centre-kassaïenne. Et c'est comme ça que j'ai commencé à participer à des concours au niveau national et international. Je me rappelle, c'était en 2023, lorsque j'ai participé au concours de l'UNICEF. Et bien évidemment, bien avant cela, la production n'était que de 5-10 bouteilles et ce n'était que dans les quartiers. Après avoir participé au concours de l'UNICEF en 2023, en 2020...
Donc, tout est parti avec seulement 5 bouteilles.
Évidemment. seulement 5 bouteilles. Et d'ailleurs, je me rappelle, j'ai toutes ces petites vidéos. La première fois où j'ai essayé de faire de la mayonnaise, c'était une mayonnaise ratée. C'était une mayonnaise ratée et je ne me suis pas découragé. J'ai évolué. Après, je me suis inscrit, j'ai commencé des formations jusqu'à ce que j'ai maîtrisé la fabrication complète de mayonnaise. Et c'est comme ça que tout est parti de 5 bouteilles à 10 et actuellement à environ 1000 bouteilles le mois.
1000 bouteilles le mois et tout est vendu dans les Kananga, dans la province du Kasaï central. Donc aujourd'hui, tu te considères quand même parmi les marques congolaises un leader dans ton marché?
Si je peux le dire, oui.
Alors, parlons de financement, parlons de concours. Tu commences avec 5 bouteilles, ensuite tu augmentes en volume et en production. Aujourd'hui, tu es à environ 1000 bouteilles le mois. Et comment ça s'est passé? Comment tu as su gagner la confiance du marché? Comment on a su te faire confiance? Parce qu'on peut également remarquer que la mayonnaise, on le consomme tout le jour, partout au pays, mais il y a déjà des marques, des grandes marques, que ce soit des expatriés ou de marques importées, qui se sont déjà imposées. Mais quelle est la stratégie que tu as utilisée pour convaincre le marché kassaïen?
Évidemment, au début, c'était tout à fait difficile. Mais après, je n'avais pas d'autre choix que de faire des livraisons à domicile et laisser à crédit pour récupérer les gains après. Je suis parti de cette stratégie et actuellement, il y a des grands distributeurs qui peuvent prendre des grandes quantités et après nous donner l'argent après. C'est comme ça que nous avons commencé à gagner petit à petit la confiance de la population centre-kassaïenne. Et actuellement, la demande, elle est énorme. Notre capacité de production est limitée. Et Dieu merci, avec l'avènement du projet Copa Transform, bientôt nous aurons des matériels industriels qui pourront nous permettre de produire des milliers de bouteilles mensuellement.
Donc les 1000 bouteilles par mois que vous produisez en ce moment sont même insuffisantes. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte demande. Donc aujourd'hui, vous avez une portée énorme.
Évidemment, on a une portée énorme et bien évidemment, il y a les consommateurs à partir de Kinshasa qui passent des commandes. Et parfois, on se retrouve limité entre envoyer 100 ou 200 bouteilles à Kinshasa et vendre, écouler toutes ces bouteilles ici sur place. On se retrouve vraiment limité et j'espère que dans les jours à venir, d'ici la fin de l'année, nous saurons répondre à cette demande qui est en pleine croissance.
Alors, avant d'aborder la question de la chaîne de distribution, que ce soit sur le plan local ou même national, j'aimerais d'abord te poser une question très importante. Aujourd'hui, si ton entreprise commence à prospérer, c'est grâce au financement, au concours auquel tu as pris part ou grâce aux ventes que tu as réalisées sur ces marchés?
Selon moi, je peux dire que c'est grâce aux efforts personnels et à la passion que j'ai pour le travail que j'exerce. Il y a des entrepreneurs qui ont des financements. Après être financés, l'entreprise ne prospère pas. Et selon une étude des experts, les entreprises, les startups africaines meurent uniquement dans les 5 ans de leur démarrage. Et c'est fort possible que certaines entreprises qui ont reçu plus de financements que nous-mêmes n'aient pas prospéré ou n'aient pas atteint la limite ou les niveaux que nous avons atteints actuellement. Si j'ai pu prospérer ou si j'ai pu tenir bon jusqu'à ce jour, c'est parce que j'aime ce que j'ai fait. C'est ça la première des choses. Il faut aimer ce qu'on fait.
Il faut aimer ce qu'on fait. C'est la première force en entrepreneuriat avec Giscard Katala, entrepreneur dans les Kassaï, mais très ouvert. Alors, on va aborder la question de la distribution au niveau national. C'est vrai que tu as quand même un œil sur Kinshasa.
Évidemment, mais vous savez, Kinshasa, c'est près de 20 millions d'habitants. Kassaï central, c'est uniquement, on approvisionne les 5 millions d'habitants. Et là, je me dis, Kinshasa, c'est le plus grand boucher en RDC qui puisse exister. C'est la capitale économique, c'est là que tout se passe. C'est là que tous les jets doivent se passer. Et bien évidemment, au Kassaï central, sur les 5 millions d'habitants, la consommation de mayonnaise, c'est à peu près 2 millions. Ça approvisionne les 2 millions. Pourtant, Kinshasa, sur les 20 millions d'habitants, nous sommes dans les pratiquement 40% de personnes qui consomment parce que vous savez, du jour au jour, il y a des terrasses qui ne cessent de naître. Il y a au coin de chaque rue des jeunes entrepreneurs qui se battent pour vendre, pour avoir des takeaway et tout ce qui va avec. Et c'est la consommation de mayonnaise qui est au cœur ou au centre de leur productivité.
C'est qui est bien. Non, alors, est-ce que tu as un plan pour ton installation à Kinshasa? Est-ce que tu comptes d'abord vraiment t'installer ici, c'est-à-dire réussir à avoir tous les matériels qu'il te faut pour commencer à aller à Kinshasa? Et comment tu fais pour à parvenir la marchandise jusqu'à Kinshasa? On est à plus de 1000 kilomètres. On parle de problèmes de route, bien qu'en ce moment, on parle notamment de la construction de la route nationale numéro 1. Comment tu fais pour ramener la marchandise jusqu'à Kinshasa? Et puis, à part Kinshasa, est-ce qu'il y a d'autres marchés au niveau national? Plus tard, on parlera du niveau international que tu cibles ou que tu as déjà visité.
Évidemment, on a un œil gardé sur Kinshasa. Mais aussi, il faut savoir qu'on peut produire ici à Kananga et avoir un débouché à Kinshasa. On ne veut pas déplacer l'entreprise entière pour commencer la production à Kinshasa parce qu'on ne doit pas surpeupler Kinshasa. Kinshasa est déjà surpeuplé. Nous devons créer, avec l'écosystème au Kasaï central, être en mesure de créer notre propre zone économique spéciale. À Kinshasa, nous avons plus de 2 zones économiques spéciales. Tandis qu'au Kasaï central, nous n'avons pas de zones économiques spéciales. Alors, je me dis, nous pouvons produire ici et exporter vers Kinshasa parce que déjà avec les routes qui sont en pleine construction, il nous sera très facile de faire par Chikapa, Chikapa, Kikwit, Kinshasa. Actuellement, si les produits arrivent à Kinshasa, c'est uniquement lorsque je voyage ou lorsqu'on a des commandes ou carrément lorsque je participe à des conférences parce qu'on ne saura pas envoyer 100 bouteilles uniquement à Kinshasa pour les ventes. Tant que ces 100 bouteilles peuvent être écoulées ici dans 2 jours et les envoyer à Kinshasa pour commencer à faire des porte-à-porte sera très gênant et ça sera une dépense excessive parce qu'il faudrait les transports, les frais de livraison et tout ce qui va avec. Et surtout que nous n'avons pas encore des points de distribution à Kinshasa où nous n'avons pas des contrats avec des boutiques qui peuvent nous permettre cette vente facilement.
Quel est le rôle que les différents concours auxquels tu as pris part ont joué quand même dans les développements de ton entreprise? Tu as gagné combien de concours? Tu as participé à combien de concours? Est-ce qu'il t'est aussi arrivé de participer à un concours et d'être déçu?
C'est vrai, on m'appelle Zambé Abapitch parce qu'à chaque concours que je participe, la plupart, les 80% des concours, j'ai toujours été lauréat. C'est vrai, il y a eu aussi des concours qui, on y participe. Mais après, tu comptes plus sur les concours. Après, on te dit, malheureusement, ta candidature n'a pas été retenue. Et c'est vrai, c'est normal. Pour un entrepreneur, on ne doit pas se décourager. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ton projet ne sera pas le bienvenu dans toutes les institutions financières. J'ai été lauréat au concours de l'UNICEF. Et la finalité, c'était d'aller à New York. Malheureusement, avec les élections de 2023, je pense bien, on n'a pas pu décoller. En 2024, j'étais dans les top 5 des jeunes entrepreneurs congolais avec le ministère national de la jeunesse. En ce moment-là, sous tutelle de son excellence Noëlla Ayegana-Gato. Et à part ça, j'ai été lauréat de l'espace Grand Kasaï. J'étais le premier lauréat. Et actuellement, je suis lauréat de la bourse Anzisha. Et les concours, la finalité, c'est l'année prochaine à Johannesburg, en Afrique du Sud. Mais à part cela, j'ai participé plusieurs fois au concours de Tony Elumelu. Je n'ai jamais été retenu. J'ai postulé à Gogetaz. Je ne suis pas retenu. Mais cela ne me décourage pas. Ce sont beaucoup plus des expériences que je suis en train d'acquérir pour pouvoir améliorer mes prochaines candidatures. Il y a eu aussi mes participations à des grands forums d'envergure, des grandes envergures. Par exemple, les sommets des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Au mois de mai dernier, en Italie, avec les sommets européens sur l'innovation et la durabilité, grâce au soutien du FIDA. Et aussi, en septembre dernier, où j'étais au Sénégal, avec le soutien de FIDA toujours sur les sommets africains sur les systèmes alimentaires africains toujours.
C'est tout simplement magnifique. Et à la question de l'impact que ces concours ont eu dans ta manière, dans ta conduite entrepreneuriale?
Je peux dire la visibilité. La visibilité et la crédibilité. Vous voyez, si un grand média comme le vôtre aussi arrivait à faire la promotion de ce que je fais, déjà, il y a des personnes qui vous suivent de très loin qui vont découvrir, au Congo, à Kananga, dans une petite ville, il y a un jeune entrepreneur qui fait ceci, qui fait cela. Et il y a des personnes, j'ai établi des contacts avec elles. On ne s'est jamais vu, mais ces personnes me font confiance. Il y a des personnes lorsqu'elles apprennent que je suis dans tel pays, elles me disent « Ah, ok, moi je suis encore en Europe, mais j'ai un ami qui peut te recevoir. » Et je pars de l'autre côté, on me reçoit très bien. Donc je me dis, déjà avec les réseaux sociaux, la communication, c'est un grand moyen pour se faire connaître. Nous sommes entrepreneurs, on n'est pas obligé ou on ne doit pas être limité qu'à la RDC. Nous devons envisager le marché africain. Avec une population qui devra atteindre plus de 250 milliards d'habitants, d'ici 2030, le marché agroalimentaire africain ne fera que croître. Et nous devons nous battre, entrepreneurs africains, nous-mêmes, à réduire la dépendance, surtout du côté agroalimentaire vers les Occidentaux.
Et ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un fake news. Les entrepreneurs, ce n'est pas seulement à Kinshasa. Dans le fin fond, en province également, il y en a. Les entrepreneurs, il n'y en a pas seulement à Lubumbashi. Les entrepreneurs, il n'y en a pas seulement à Kolwezi. Les entrepreneurs, il n'y en a pas seulement dans les mines, mais également dans l'agroalimentaire. Et c'est le cas des Giscard qui aujourd'hui est en train d'évoluer. Est-ce qu'on peut parler chiffre d'affaires?
Je vais juste donner des targets. Je ne pourrais pas dire les chiffres d'affaires exacts parce que vous savez, avec les systèmes fiscal congolais, parfois on a peur de les dire en public. Mais sachez que nous sommes dans les moins de 100 millions de dollars. Et je ne voudrais pas vous dire à combien on est, mais sachez juste qu'on est à moins de 100 millions de dollars.
Ouais, donc on se réserve de certaines vérités, on a peur du système fiscal, mais du moins l'entreprise paye quand même ses impôts.
Évidemment, on paye chaque mois, on a des impôts qu'on doit à la DGI, par année on doit à la DGRCAC, on a des impôts qu'on doit payer, la taxe sur l'environnement, on a tout ce qui va avec la fiscalité congolaise, nous sommes en ordre.
Est-ce que ça pèse quand même pour un entrepreneur qui fait ses débuts et qui est en province, toutes ces taxes?
Pour un entrepreneur qui fait ses débuts et qui ne connaît pas ses droits et devoirs, oui, ça pèse. Mais moi par contre, c'est vrai, au début, j'ai été beaucoup plus tracassé parce que lorsque j'ai installé mon bureau, je n'avais écrit que les noms, même pas encore équipé le bureau. Il y a eu des services de taxation qui étaient venus justement pour commencer à payer la taxe et impôts. Et heureusement, c'était, je crois, la même année où le chef de l'État avait promulgué, où il y avait la loi sur l'exonération pour les jeunes entrepreneurs. Voilà, l'exonération fiscale pour les jeunes entrepreneurs qui venaient à peine de débuter, qui allait jusqu'à 6 mois. Et parce que j'étais au courant de cette loi, c'est comme ça qu'on m'a laissé tranquille.
Et donc, mais aujourd'hui, tout est bon et tout fonctionne très bien. Alors là, c'est la branche mayonnaise. L'usine se retrouve ici. L'objectif est de vendre au niveau national et voire même de l'exporter et de concurrencer les grandes marques. Le nom de la mayonnaise, c'est encore quoi?
Le nom de mayonnaise, c'est Mayo Bio.
Mayo Bio. Donc, lorsque vous retrouvez Mayo Bio dans des supermarchés, sur Internet ou partout, il faut savoir donc que c'est une marque qui vient donc du Kasaï et c'est vraiment énorme. Félicitations pour ce travail. Alors, il n'y a pas que l'agroalimentaire directement, il y a également ce secteur de la restauration qui apparemment te drague bien.
Évidemment, il y a un autre secteur qui est celui de la restauration qui est en plein chantier d'ailleurs. Et je me dis, ça sera le plus grand restaurant de la province du Kasaï central.
Le plus grand restaurant de la province du Kasaï. On parle donc là déjà d'un point clé, d'une différence par rapport à ce qui se passe ici. Quelles seront les innovations et pourquoi tu parles de la grandeur dans la taille, la grandeur dans les services, le plus grand par rapport au prestige ou à quoi?
Je dirais la grandeur dans le service, pas dans la taille, parce que vous savez, ici à Kananga, comme vous y êtes, je ne crois pas que vous avez eu à retrouver des plats ou des mets locaux. Moi, ça sera un restaurant identitaire, le premier, et j'espère que au début, je serai l'unique. C'est vrai qu'il y aura deux personnes, des concurrents qui naîtront du jour au jour, mais jusque-là, je pourrais dire que je serai l'unique parce que nous offrirons des services identitaires aussi, des services, des plats qui vont révéler notre identité.
Donc, lorsqu'on se retrouve dans ces restaurants, on vient retrouver des plats du Kasaï.
Vous retrouverez les plats du Kasaï C'est vrai qu'il y aura aussi des accompagnements des plats occidentaux, même beaucoup plus les plats du Kasaï. Le menu du jour sera constitué que des plats du Kasaï. Et ça sera un restaurant identitaire au vrai sens.
Quel sera le nom du restaurant? On est à quel niveau? Ça arrive pour quelle année? Pour cette année? L'année prochaine? Est-ce que tout va bien? Tout est déjà réuni? Ou c'est encore quelque chose qui les Banaba Kasaï doivent attendre longtemps?
Non, nous sommes en finissage, en plein finissage maintenant avec les architectes qui travaillaient d'arrache-pied. D'ici 2 mois, le restaurant sera déjà opérationnel. Et le nom, nous sommes en train de voir, mais ça sera sûrement firme KTL, lunch bar ou un truc du genre. Mais aussi, à part le restaurant, parce qu'on combine les deux à la fois, un food hub où la population centre-kassaïenne aura la possibilité de retrouver les poules locales, et directement possibilité de préparer dans les restaurants. Quelqu'un peut choisir sa poule vivante et il prend avec ses propres mains, il donne au restaurant et on fait pour lui ou on prépare directement.
Waouh, ça c'est juste magnifique. Donc on prépare pour vous sur mesure ce que vous choisissez et ça c'est vraiment une très bonne innovation. Félicitations, bravo et bonne réussite pour cette entreprise. Alors, on va pas terminer notre interview sans revenir sur les destins des carrières. Quand tu te retrouves à l'université en train de faire la médecine, c'était un choix personnel, c'était une motivation des parents, c'était une contrainte. Comment expliquer ces virements?
Vous savez, lorsque nous sommes aux humanités, on a notre choix personnel, on a le choix des parents, on a aussi l'influence des amis. Entre ces choix, on se trouve au milieu et on ne sait quoi faire. C'est vrai, au début, moi, mes parents voulaient à ce que je devienne médecin. Mais moi, depuis l'école primaire, j'aurais bien voulu être maître avocat. Et après, au fur et à mesure, lorsque j'ai commencé ma carrière, j'étais beaucoup plus orienté systèmes alimentaires. J'aurais pu faire la nutrition. Mais après, je me dis, je pourrais être limité. Comme ça, j'ai embrassé la médecine. Et après mes études de médecine, je pourrais me spécialiser en santé publique et option beaucoup plus de nutrition ou tout ce qui concerne les systèmes alimentaires.
Alors, s'il faut vraiment faire un choix aujourd'hui entre l'entrepreneuriat et la médecine, aujourd'hui, on te veut toi comme médecin et on te veut toi. C'est-à-dire tes entreprises, tu les mets un peu à côté. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu choisis?
C'est une question difficile. Alors, étant médecin, je prête serment, le serment d'Hippocrate. Étant entrepreneur, on doit sauver des milliers d'emplois parce que c'est grâce à l'entreprise qu'on a des employés qu'on paye, qui ont de quoi survivre. Je dirais que je veux concilier les deux. Je vous ai dit que je me spécialise beaucoup plus dans la santé des aliments, donc les systèmes alimentaires. Je serai médecin, mais pas clinicien. Je serai dans la paraclinique, c'est-à-dire je ne serai pas tout le temps à l'hôpital. Je serai dans la paraclinique et beaucoup plus dans l'alimentation. Je crois que ça sera un équilibre où mon bureau sera mon cabinet aussi.
Magnifique réponse. On arrive à la fin de notre interview. On le fait aujourd'hui. Nous sommes les 18 août 2026. On se retrouvera dans le prochain mois, dans les prochaines années, et on espère une évolution. En tout cas, on en reparlera. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un message à partager aux auditeurs de UFM? Est-ce qu'il y a des coordonnées à partager? Est-ce qu'il y a des exclus? Parce que UFM, c'est également la radio des exclus. Est-ce qu'il y a des exclus pour nos auditeurs?
Merci beaucoup, M. Clostifi, pour cet honneur. Les derniers mots que je peux dire, c'est à tous ceux qui rêvent d'entreprendre, de les faire. Tant qu'on peut les rêver, on peut les réaliser. C'est comme ça qu'elle a dit Disney World. Et je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de taxe sur les rêves. Il suffit de rêver grand et commencer par la petite idée qui vous traverse dessus par la tête. Et je crois bien que ça peut être cette idée qui peut être un déclic pour changer ou apporter le développement économique de la République démocratique du Congo, notre pays. Alors, pour ceux qui veulent me contacter, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes sur LinkedIn. Nous sommes sur X, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook, toujours sous Giscard Katala. Et d'ailleurs, sur Facebook, il y a possibilité de nous contacter directement via notre adresse mail.
Merci beaucoup Giscard Catala, l'entrepreneur du Kassai Central, l'agroalimentaire, la restauration, mais également le médecin, et d'ailleurs en matière de santé publique. Donc on espère bien que les choses vont très bien se passer. Moi j'ai été bien accueilli par Giscard, j'ai bien consommé ce qu'ils produisent ici, c'était un plaisir. Merci à vous fidèles éditeurs de nous avoir suivis ce soir. Comme Giscard l'a dit, il n'y a pas de taxes sur les rêves, il n'y a pas également de taxes à suivre votre radio préférée UFM. On se retrouve très bientôt. Restez à l'écoute de vos meilleurs programmes.
Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la U-Job. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.